un épisode du journal du maître de jeu. Aujourd'hui, je vole solo. J'essaie de mettre des dates avec Guillaume. Guillaume a beaucoup d'activités en ce moment, comme podcasteur et aussi comme papa. Et du coup, on a jamais réussi à mettre une date qui convenait. Et donc, j'ai décidé d'enregistrer l'épisode tout seul. C'est pour vous parler un peu de mes achats les plus récents en matière de jeux de rôle. En fait, ça va tourner autour de Donjons et Dragons cette semaine, l'épisode. J'ai en effet acheté d'un côté le starter set pour la 5e édition de Donjons et Dragons, et de l'autre le Pathfinder Beginner's Guide, donc la boîte aussi. Donc dans les deux cas, c'est des boîtes pour Pathfinder. Je vais vous expliquer pourquoi après, hein. Mais donc on va parler un peu de ça. Au départ, c'était mon idée de départ pour un épisode avec Guillaume, c'était de vous parler de Lovecraft dans Donjons et Dragons. Ça va quand même intervenir dans cet épisode, mais ça sera plus en filigrane parce que on a décidé de, enfin le groupe virtuel en tout cas de joueurs a décidé de jouer Strange Eons, qui est la campagne pour Pathfinder dont je vais vous parler. Donc je peux moins en dire quelque chose puisque ça serait spoiler pour les joueurs qui vont la faire prochainement et qui évidemment passera sur le podcast. Donc juste pour le groupe physique, hein, de mes copains Mourad et toute la bande, Alain, David, Raphaël et donc Fabrice qui est un éditeur du podcast, un joueur aguerri qui nous a rejoint récemment suite à notre demande, on cherche un nouveau joueur. Avec ce groupe-là, ce qui est au programme, c'est de continuer l'assombrissement de Mirkwood, le Darkening of Mirkwood, d'un côté, et de l'autre, la prochaine partie de Cthulhu qu'on va faire, ce sera le début de Assaut sur les montagnes Anisinée, donc Assault on the Mountains of Madness, le prologue à cette campagne-là. Il y a un prologue à cette campagne, donc une aventure un peu isolée, mais qui sert à mettre en place des éléments pour la campagne. Donc on va attaquer ça, la prochaine partie de l'appel qu'on fera. Oui, juste un mot à ce sujet-là. Je dois dire que je suis assez impatient d'attaquer Assaut, mais en même temps, je suis un peu mitigé par rapport à la gamme Artung Cthulhu. C'est vrai qu'elle rencontre beaucoup d'enthousiasme. Je vois bien que quand je pose des épisodes, les gens aiment bien. Mais je trouve que, en tout cas, les scénarios qu'on a joués, j'étais un peu mitigé. On en a fait 3 jusqu'à présent. L'opération Watan, et puis celle. Donc en fait, bon, plutôt, on va parler du sujet. Il y a une où il y avait des zombies dans un château en Europe de l'Est. L'autre avec des profonds nord du. Donc de la retraite des Anglais vers l'Angleterre. Et puis la troisième, c'était le scénario pendant la bataille des Ardennes, avec aussi des sortes de zombies, mais créés par un dispositif, hein, qui projette de la lumière dans les yeux des gens. Enfin, évidemment, j'espère que vous avez écouté tous ces épisodes. Mais sur ces 3 épisodes-là, sur ces 3 scénarios-là, donc 1, 2, 3, le deuxième, celui avec les profonds, c'est celui que j'ai préféré, que je trouve qui s'est le mieux déroulé. Et c'est vrai qu'en les lisant, c'était celui qui m'enthousiasmait le plus. Bon, il se déroule en Belgique, mais enfin le troisième aussi. Et je trouvais, j'aimais beaucoup l'idée, enfin l'idée que les profonds interviennent pendant la Seconde Guerre mondiale m'a toujours enthousiasmé. Surtout qu'il y a des romans d'Elta Green qui évoquent la même idée. Bon, évidemment, c'est pas dans le même univers parce qu'en réalité c'est des settings qui sont différents et donc Delta Green ne peut pas être invoqué. Oui, donc quand je parle de Delta Green dans Artung Cthulhu, en fait je change le nom. Normalement dans Artung Cthulhu, c'est l'organisation américaine de lutte contre le mythe porte un autre nom, quoi. Mais enfin, pour souci de cohérence, au sein de ma propre campagne, je parle de Delta Green. Mais par contre, le premier et le troisième, il y avait quand même des problèmes. Le premier avec le château, c'est peut-être un peu loin dans votre mémoire, mais les joueurs doivent rentrer dans le château pour savoir ce qui s'y déroule, et on rencontre un personnage de prêtre, et le scénario nous dit que le prêtre a réussi à s'échapper du château. Mais le scénario ne dit jamais comment le prêtre a réussi à s'échapper du château. Or, évidemment, si vous êtes les joueurs et que vous devez rentrer dans le château, et qu'on vous dit qu'un PNJ important a réussi à s'échapper du château, c'est assez évident que vous allez demander à ce PNJ comment il a fait pour retracer son chemin à l'envers. C'est très exactement ce qui s'est passé. Le problème, c'est que le scénario ne fournit aucune explication sur comment ce PNJ a réussi à s'échapper du château. Et ça, c'est vraiment un gros bug dans le scénario qui, à mes yeux, ne s'explique que par un manque de playtesting. Hein. Donc ça, c'est un peu embêtant. on se dit que, enfin, je sais pas comment la maison d'édition a pu passer à côté d'un tel problème. C'est pas un détail mineur dans la rédaction du scénario, donc c'est quand même quelque chose d'important qui leur a échappé, hein. Et qui aurait dû ressortir en playtesting. Donc, je sais pas comment un tel bug dans le scénario a pu passer. Donc, pour moi, c'est vraiment, enfin, souvent les scénarios que je joue, moi, c'est l'embarrassement de la richesse. Hein. On joue des scénarios tellement bons maintenant, on a tellement de bons scénarios qu'évidemment, quand on trouve avec des scénarios où il y a des bugs comme ça me pose problème. Et alors, bon, le scénario avec les 10 points, ça allait, mais le dernier, ben, ça, je pense que vous l'avez plus remarqué à l'écoute. Les personnages n'ont pas de motivation pour faire ce que le scénario suppose qu'ils fassent. Et donc, les joueurs ont, selon moi, réagi de manière tout à fait normale et naturelle pour leur personnage. Or, c'est pas ce que le scénario envisageait qu'il fasse. Et là, c'est aussi un problème. Je pense qu'il y a aussi un problème de playtesting à ce niveau-là. Si le scénario pense que les joueurs font faire un certain nombre d'actions bien déterminées, il faut qu'ils aient la motivation d'aller dans ce courant-là, quoi, dessus. Or, les joueurs ont, même en lisant le scénario, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les joueurs feraient ça, hein, et ne réagiraient pas comme les joueurs réels l'ont fait? Et là aussi, j'ai l'impression que c'est un manque de playtesting, parce que c'est pas possible que si vous faites jouer ce scénario à 50 ou 60 groupes différents et que vous lui demandez ce qui s'est passé, aucun des groupes n'ait dit oui, mais mes joueurs à ce moment-là, ils n'ont pas réagi de cette façon-là, ils n'ont pas été dans la direction que vous pensiez qu'ils allaient. Donc, dans les deux cas, dans ces scénarios, donc deux scénarios sur les trois, il y avait une sorte de. Le premier, c'est vraiment un gros bug, et le deuxième, c'est. Le scénario n'envisage pas des directions probables dans lesquelles les joueurs peuvent se diriger. Et ça, c'est embêtant. Donc, ça fait quand même un mauvais ratio. Ceci dit, j'espère qu'Asso. Asso est un autre auteur, donc j'espère qu'Asso n'aura pas ce genre de problème. J'ai survolé la campagne, ça m'a l'air de tenir la route, mais bon, le devil is in the details, hein, les problèmes sont dans les détails, donc c'est en jouant qu'on verra. J'espère sincèrement qu'il n'y aura pas de bug de nouveau comme dans ces deux scénarios-là, et qu'aussi la campagne évitera l'écueil de la première campagne par-delà les montagnes hallucinées, où bon, c'était beaucoup trop dirigiste, hein, quand même, il faut bien le dire. Oui, parce que enfin, si vous avez écouté l'aventure, la troisième aventure, donc avec les zombies, enfin, les soldats dans lesquels on projette de la lumière, et ça les zombifie en quelque sorte. Les joueurs n'ont pas été dans la direction que le scénario envisageait. Mais ça, c'est différent de quand les joueurs, comme on dit, n'engagent pas le scénario. C'est-à-dire qu'ils veulent la jouer en opposition avec le meneur de jeu. Ils veulent tellement survivre qu'ils font des actions qui empêchent le scénario de se dérouler, comme par exemple appeler la police. Non, on veut pas aller confronter la créature du mythe, on va appeler la police pour qu'elle s'en occupe à notre place. C'est assez marrant d'ailleurs, parce que j'ai une fois écouté un scénario, c'est ce qui s'est passé, puis la police est arrivée, puis le meneur d'AG dit bon, bah, les policiers sont tous morts, voilà la fin de l'aventure. Je devrais faire le coup une fois mes joueurs. Mais non, mais ça c'est différent, parce que c'est vrai qu'on peut toujours dire aux joueurs oui, vous êtes dans un scénario d'horreur, vous êtes prié d'engager le mythe. Je pense à ça, parce que par exemple, on a eu un peu la situation quand Moura n'était pas là avec. Avec Ripples for Carcosa numéro 3, là où ils voulaient pas aller dans la réalité virtuelle parce qu'ils avaient compris qu'ils étaient dans un scénario à la 2001, l'Odyssée de l'espace, où la réalité virtuelle pouvait être une zone dangereuse. Mais ne pas vouloir aller dans la réalité virtuelle dans ce type de scénario, c'est ne pas vouloir aller dans la maison hantée, par exemple. Mais je veux dire, si vous êtes dans un film d'horreur et que les joueurs, on vous dit il y a une maison hantée, et puis que les joueurs disent ouais, il est hors de question que j'aille dans la maison hantée, forcément ça bloque le scénario. Mais ça, c'est parce que les joueurs. Je veux dire, c'est un problème méta. Quand les joueurs pensent qu'ils sont dans Donjons et Dragons, leur but c'est de survivre au scénario. Et donc, c'est d'empêcher le scénario de se dérouler. Bah, évidemment, si vous voulez survivre et que vous êtes dans une position confrontationniste avec le meneur du jeu, le meneur de jeu vous dit il y a une maison hantée, bah, vous dites je ne rentre pas dans la maison hantée, bah, vous avez gagné le scénario parce que vous l'avez survécu. Mais par contre, vous n'avez pas vécu une histoire très intéressante d'un point de vue narrativiste. Hein. C'est pour ça que les. À l'appel de Cthulhu, on dit il faut engager le scénario. Mais là, on était dans un cadre de science-fiction, alors c'était apparent pour moi, mais peut-être pas apparent pour les joueurs qui avaient l'impression de ne pas s'opposer au scénario. Enfin, il y a aussi un moment où, par exemple, Raph disait on va ramener le vaisseau et puis on va demander à des spécialistes de s'occuper de l'intelligence artificielle. C'est la même chose que la police, d'ailleurs, c'est ce que j'ai répondu. Vous êtes les spécialistes, quoi. Mais ça, c'est différent. C'est le réflexe dans une optique confrontationniste parce qu'on veut survivre au scénario. À l'ancienne, une optique simulationniste, je veux éviter le danger à tout prix, même au prix je vais vivre une aventure ennuyeuse parce que je refuse de confronter le danger, quoi. C'est un peu, il y a une tribu de kobolds qui habite devant vous, qui se trouve à 1 km devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous contournez la créature de le camp de kobolds. Ok, je veux dire, c'est d'un point de vue confrontationniste, vous survivez le scénario, donc vous avez gagné. Mais d'un point de vue narrativiste, c'est pas très intéressant parce que bah il ne se passe rien. Bon, ça c'est vraiment méta. D'ailleurs, il y a des systèmes de règles de jeux d'horreur qui contournent ce genre de problème en récompensant les joueurs pour le fait qu'ils réalisent des actions qui paraissent stupides. Par exemple, il y a des jeux où si le joueur va fumer une cigarette à l'extérieur alors qu'il y a un tueur psychopathe qui se promène, ils reçoivent des points qui leur permettront plus tard de survivre à l'aventure, par exemple. Mais l'appel de Cthulhu ne présente pas ce genre de mécanique parce que c'est un vieux système et donc c'est un peu un système à l'ancienne. Donc ce genre de problématique-là, c'est différent de ce qui s'est passé dans le troisième scénario d'Actum Cthulhu, où là, les joueurs m'ont paru réagir de façon très naturelle à ce qui se passait. J'ai envie de dire, c'est ce que j'aurais fait aussi. Et donc là, c'est vraiment un bug dans le scénario de ne pas avoir prévu. Bref, c'était mes critiques pour Actum Cthulhu. Trois scénarios jusqu'à présent, celui avec les profonds, il était top, j'ai adoré. Les deux autres, celui avec les zombies n'était pas très original, le premier, et le troisième, avec l'idée de projeter la lumière de Tillinghast dans les yeux. Le setting de départ était original, et puis la deuxième partie, ça partait en cacahuète. Donc j'espère qu'Assaut sur les montagnes sera nickel, mais en tout cas, on va attaquer ça très bientôt. Ouais, sinon, pour Darkening, j'ai pas grand-chose à dire, c'est tout à fait formidable. La seule chose que je vais dire, c'est que on va bientôt attaquer une partie avec des nouveaux personnages et où on va aller du côté de Rivendell, donc chez Elrond. C'est dans le bouquin qui s'appelle Ruins of the North, les ruines du Nord, et donc qui emmène les joueurs du côté de Rivendell. Et donc ça, je suis très impatient de faire ça. Alors, c'était pas ce que je voulais vous raconter. Ce que je voulais vous raconter, c'était donc que j'ai acheté le starter set pour D&D 5 et le Pathfinder's Beginner's Guide. Maintenant, j'ai oublié. Enfin, donc la boîte pour Pathfinder. Bon, juste un peu de background. Moi, j'ai commencé le jeu de rôle. Bon, j'ai commencé avec la première boîte que j'ai eue, c'est L'Œil Noir, évidemment. Enfin, évidemment, pour ma génération française, L'Œil Noir. Hein. Et puis après, j'ai attaqué sur la boîte rouge de Donjons et Dragons, qui était une de ces fameuses boîtes d'initiation. Et donc, c'est vrai qu'il y a un petit côté magique quand on reçoit ces boîtes et qu'on les ouvre. Je suis de nouveau un garçon de 12 ans en train d'ouvrir une des boîtes. Il y a vraiment un aspect nostalgique à ces boîtes qui est vraiment très chouette. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que j'ai acheté deux boîtes de Donjons et Dragons récemment? Deux choses l'une. La première, en fait, c'est parce que Cubicle 7 a décidé de proposer une conversion, enfin, de One Ring en version Donjons et Dragons, donc ça s'appelle Adventures in Middle-earth, donc Aventure dans les Terres du Milieu. Je n'ai pas acheté Aventure dans les Terres du Milieu, mais donc Aventure dans les Terres du Milieu demande quand même d'avoir la boîte d'avoir les règles de base de Donjons et Dragons 5e édition. Et j'ai pas acheté Aventure dans les Terres du Milieu parce que j'attends de voir ce qui se déroule avec ça. Pour l'instant, ils ont juste sorti le manuel des joueurs et le manuel du maître. Ça a l'air sympa, mais j'ai l'impression que ce qu'ils vont faire au départ, c'est surtout refaire les scénarios qu'ils ont déjà publiés pour The One Ring, mais en les convertissant pour Donjons et Dragons. Ben, forcément, s'ils font ça, ça m'intéresse pas, parce que je préfère les jouer avec The One Ring, ou pire encore, je les ai déjà joués avec The One Ring avec mon groupe, donc ça m'intéresse pas. Par contre, si jamais ils faisaient des scénarios originaux, là, je serais quand même vachement intéressé d'aller voir ce qu'ils font. Et donc, juste au cas où, je me suis dit, bah, je vais quand même prendre le starter set, parce que j'en avais entendu beaucoup de bien, dans un aspect nostalgique. Et donc, j'ai pris le starter set de Donjons et Dragons 5e édition. Tant que j'y suis, c'est vrai que souvent, j'entends des réactions négatives par rapport à Donjons et Dragons, que je peux comprendre pour certains aspects qui dérangent le Donjons et Dragons. Je vais y revenir d'ailleurs. Mais moi, j'ai pas ça. Hein. Au contraire, moi, j'ai toujours aimé Donjons et Dragons. J'ai acheté Donjons et Dragons, la boîte rouge, puis Advanced Dungeons and Dragons, et puis j'ai eu jusqu'à la deuxième édition. Advanced Second Edition, donc la deuxième édition d'Advanced Dungeons & Dragons. Donc j'avais un peu arrêté à la troisième version. Donc j'avais pas acheté 3, 4 et 5. Bon, maintenant j'ai acheté 5 et puis Pathfinder c'est 3.5, donc j'ai 3. Donc en fait la seule que j'ai pas maintenant c'est la 4. Mais j'ai que les starters, enfin que les boîtes. Hein. J'ai pas d'objection idéologique à Dungeons & Dragons. J'ai des objections à certains scénarios ou certains usages qui sont faits. Donc mais sur le fond, moi, l'idée de lancer des missiles magiques, de faire du leveling up et tout ça, ça me botte. Hein. Le problème, c'est que souvent, les scénarios, ils étaient pas terribles ou... Et on va y revenir de toute façon. Dans la boîte de Donjons et Dragons 5e édition, je me suis acheté dans la foulée la nouvelle version de Ravenloft qui s'appelle Curse of Strahd, la malédiction de Strahd. Pour ceux qui savent pas, Ravenloft, c'est un setting. Au départ, c'était un scénario, mais horreur pour Donjons et Dragons, mais c'est de l'horreur gothique. Et franchement, si j'ai acheté la boîte des starters, c'était aussi parce que j'étais vraiment enthousiasmé par Curse of Strahd, la malédiction de Strahd. Parce que j'ai toujours voulu jouer dans Ravenloft, mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et donc j'en dirai aussi un mot. Donc la boîte, en fait si on compare les deux boîtes, la boîte de Donjons et Dragons 5e édition, je dirais que c'est principalement un scénario avec de quoi jouer ce scénario-là, mais c'est un scénario assez conséquent. Je pense honnêtement qu'il me prendrait avec mon groupe 4 soirées, 5 soirées de jeu. Allez, 3 s'ils vont très vite, mais même pas. Hein, 3 ce sera au pas de course quoi. Donc c'est quand même un scénario assez conséquent. Et alors on a des personnages prétirés pour jouer. Mais c'est pas un jeu complet parce qu'il n'y a pas les règles de création de personnages. À l'inverse, dans le Pathfinder Starting Box, Beginner's Box, là il y a un jeu complet. Donc il y a les règles de création de personnages. Donc on peut vraiment jouer. Il y a même un bestiaire. Donc, on a vraiment un jeu entier en main avec des règles simplifiées de Pathfinder. Ce qui est vraiment très chouette. Par contre, il y a un scénario. Mais il est vraiment super court et honnêtement, il a chié. Donc, il y a du bon dans les deux boîtes. Hein. Bon, les règles simplifiées de Pathfinder. Oui, donc là aussi, hein, j'ai parlé de Curse of Strahd pour D&D 5. Et pour Pathfinder, la raison que j'ai acheté, pour laquelle j'ai acheté ce jeu, c'est parce que je veux faire la campagne Strange Eons, les étranges époques, hein, qui est une, ils ont annoncé ça, une campagne Pathfinder, donc D&D 3.5, hein, dans le monde avec des créatures Lovecraftiennes. Et j'ai acheté les deux premiers modules, j'ai pas encore la campagne complète, elle est vendue en 6 modules séparés. Donc j'ai acheté pour les niveaux 1 à 6. C'est vraiment dans le modèle Donjons et Dragons. Je l'ai lu et j'ai trouvé ça formidable. Et donc j'ai décidé de la jouer avec. Enfin, je l'ai proposé entre autres avec d'autres choses au groupe virtuel, ils ont envie de le jouer, donc on va certainement la jouer, la diffuser sur le podcast. En tout cas, on va faire le premier module, après on verra s'ils accrochent pour faire la suite. Mais donc, j'étais vraiment. Oui, j'avais même pas les règles en fait, parce que de toute façon, c'est du Donjons et Dragons. Donc, bon, j'avais quand même une idée de ce que je lisais, mais je voulais juste lire le scénario. Et dans cette campagne, donc, j'ai vraiment adoré la manière dont ils ont retravaillé le mythe de Cthulhu à l'intérieur d'une campagne de Donjons et Dragons, quoi. De manière très intéressante. On a fait un peu ce genre de choses avec mes joueurs physiques, mon groupe physique. On a fait Carcosa. Et on a fait. Avec le village, maintenant je voulais. C'était pas Innsmouth, c'était Dunsmouth. Dunsmouth. Et dans les deux cas, c'était sympa et j'aime bien l'approche de faire du Donjon et Dragon avec des créatures du mythe. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, depuis l'origine, hein, dans le premier Monster Manual, il y avait les stats pour Cthulhu, etc. et pour tous les grands anciens. Après, ils ont cru qu'il y avait un copyright qui avait été mis par Derleth, et alors ils ont enlevé. Du Monster Manual, ces créatures, en réalité, Derleth n'avait pas réellement. Il a fait croire à tout le monde qu'il avait le copyright sur ces machins-là, mais il l'avait pas. Donc, mais il a fait croire. Donc voilà. Et donc D&D a refusé. Mais il y a toujours un lien entre Donjons et Dragons et le mythe de Cthulhu. Et c'est marrant, comme maintenant, on est tous sûrs que les créatures du mythe sont libres de droit. Elle revient. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont Pathfinder a utilisé donc les l'interprétation qu'il propose des créatures du mythe, mais encore une fois, je ne vais pas en dire plus parce que sinon je spoilerai la campagne Strange Eons, en tout cas le premier module qu'on va faire avec le groupe virtuel dans un mois, je pense. Donc, si on continue à comparer les deux boîtes, Starter 7 versus Beginner's Box, hein, donc D&D 5 versus Pathfinder. Pathfinder, l'avantage, c'est que c'est un jeu complet, des règles simplifiées. D&D 5, la boîte de starter, c'est que c'est un scénario qui est vraiment. Donc, le scénario, c'est un scénario classique Donjons et Dragons, mais il est vraiment bien foutu, moi je trouve. Au point que j'ai envisagé de le jouer, mais honnêtement, à ce stade-ci, je ne le ferai pas parce que. Je veux dire, le problème, c'est qu'il est trop classique, mais en étant du bon, de l'excellent classique. Mais j'aurais plutôt tendance à faire Curse of Strahd, donc la malédiction de Strahd. Probablement que je le jouerai dans 2 ou 3 ans. J'achète uniquement ce que je prévois de jouer, mais le problème c'est que j'ai souvent 1 ou 2 ans de décalage. Donc je viens d'acheter Curse of Strahd, donc dans 1 an ou 2 je le jouerai. Probablement quand on aura fini Assaut sur les montagnes hallucinées, c'est dire. Ça sera plus de 2 ans. Donc du coup, j'ai pas juste pas le temps. Elle propose, parce que c'est toujours intéressant, comment est-ce qu'on enseigne à des nouveaux joueurs de jouer au jeu de rôle, quoi. Bon, il commence par un combat, bon, avec des gobs, parce que ça n'a rien de... forcément. Puis il y a un mini donjon, mais pas très long. On imagine qu'on le fera en une soirée de jeu. Et puis ils vont dans un village. Et dans ce village-là, ils montrent bien le modèle, un peu jeu vidéo, où on va dans un village. Et là, il y a tous des PNJ qui vous donnent des quêtes auxiliaires. Et vous devez faire ces quêtes auxiliaires, pas nécessairement toutes, mais certaines, jusqu'au moment où vous trouvez les indices qui vous permettent d'aller au donjon final, qui est le boss final, quoi, le boss de fin de jeu. En même temps, si vous ne faites pas assez de quêtes auxiliaires, vos personnages ne sont pas assez balèzes. Donc si vous allez trop vite au boss de fin, dans le donjon de fin, mettons que vous faites directement la bonne quête qui vous donne l'indice pour aller au bout, vous n'êtes pas assez balèze et vous allez au donjon et vous faites rétamer. Mais ce système, ça fleure bon le Skyrim ou les MMORPG, où on a un village, où on reçoit des quêtes, on fait ces quêtes et ces quêtes nous rapprochent du donjon final. On fait le donjon final, on bat le boss de jeu final. Mais en fait, c'est quand même, je trouve que c'est un modèle qui tient la route. Surtout si on veut l'expliquer, le jeu s'adresse à partir de 12 ans à des adolescents. Moi, si on m'avait expliqué ce modèle-là, ça m'aurait bien plu de dire... Vous commencez vos scénarios dans une ville. Dans la ville, il y a toutes sortes de PNJ. Ces différents PNJ ont des quêtes à vous proposer. Vous faites ces quêtes, vous les montez de niveau. En faisant les quêtes, vous trouvez des indices qui vous permettent de trouver le donjon final. Vous faites le donjon final et il y a quand même un arc narratif. Donc j'aime bien la façon dont le starter set de D&D 5 explique à un joueur ou un meneur débutant comment construire un scénario pour de la fantasy, mais classique dans le sens classique Donjons et Dragons, hein, mais pas Seigneur des Anneaux, évidemment. Comme je disais, pour moi, le Seigneur des Anneaux, à ce stade-ci, c'est plus de la fantasy classique, quoi. C'est Donjons et Dragons qui est de la fantasy classique. Donc, moi, je trouve que de ce côté-là, ils font un super boulot pédagogique. Mais ils font pas un super boulot pédagogique dans le sens où c'est pas un jeu... Bah, une fois qu'on a joué ça, il faut quand même acheter le reste du jeu ou en tout cas télécharger le reste des règles OSL. Enfin, il y a une version light des règles sur le site. Enfin, je me suis pas trop encore intéressé à ça, mais c'est vrai que... Et en plus, de toute façon, si un des persos meurt pendant le scénario là, bah, puisqu'on peut pas créer de nouveaux personnages, il y a pas les règles de création de perso, on est quand même obligé d'aller plus loin, quoi. À l'inverse, dans Pathfinder, ça c'est un jeu complet. Bon, Pathfinder, je redoutais un peu, parce que je veux dire, c'est très simulationniste et je savais que c'était trop. Alors, visiblement, en lisant les règles de Pathfinder dans la Beginner's Box, c'est déjà trop simulationniste, mais c'est là pas trop... Enfin, en tout cas, le vrai jeu Pathfinder, ça, je vois rien que parce qu'il est marqué dans la boîte d'initiation que c'est trop pour moi. Ça va, c'est beaucoup trop de règles. Dans la boîte d'initiation, c'est plus light. C'est suffisamment light pour que ça soit jouable pour moi, même s'il y a des choses, je sens bien, qui me font déjà chier. Enfin, les règles pour casser les murs, allez, merci, quoi. J'ai pas besoin d'une règle pour apprendre. Enfin, si mes joueurs font casser des murs, on n'a pas besoin de donner des sortes de points de vie à un mur et de leur faire faire un combat avec un putain de mur. Il y a des aspects, on sent déjà l'aspect trop simulationniste, quoi. Et puis évidemment, jouer avec un plateau et des figurines, pour moi, c'est un big no, hein. Je jouerai pas parce que j'ai toujours trouvé que... Attendez, je dis toujours, hein, si la façon de vous jouer, laquelle vous jouez, elle est bonne si vous amusez en la faisant. Mais pour moi, les figurines, ça tue l'imagination, quoi. Ça devient un jeu de figurines, ça devient un jeu de plateau. Mais si j'ai des figurines devant moi et que je dois commencer à compter les hexagones ou les déplacements des figurines par rapport aux autres pour savoir si elles flanquent, si elles sont... À ce moment-là, on est avec sa règle et on joue à Wargame, mais on n'imagine plus la scène de combat. Donc pour moi, si je fais du Pathfinder, ça sera déjà sans plateau, sans figurines. Dans la boîte de Pathfinder, il y a des petites figurines en papier qui sont vachement cool. Je veux dire, elles plairaient certainement à mon fils. Mais pour moi, enfin, elles me plaisent en tant que... je les mettrais bien pour illustrer, mais pas pour jouer le combat, quoi. Donc, mais sinon, le reste des règles, ça, c'est suffisamment light. Enfin, c'est du donjon, en ayant résolu les problèmes des premières éditions, c'est-à-dire la classe d'armure dégressive. Ici, la classe d'armure est devenue un seuil de difficulté à dépasser. Et puis avec des compétences, hein, qui permettent de donner un peu plus de profondeur aux actions des personnages. Donc finalement, oui, c'est déjà mieux que la version que j'ai utilisée parfois, donc Labyrinthe Lord, qui est la version des premières éditions. Il y a un peu plus de profondeur, enfin, on sait faire un peu plus de choses. Donc les règles light, ça m'a bien plu dans Pathfinder. Pour moi, ils résolvent des problèmes des anciennes éditions de Donjons et Dragons de manière assez élégante, enfin, en tout cas de la première édition de Donjons et Dragons, surtout la classe d'armure dégressive, hein, c'est celle qui donne des maux de tête à tout le monde. Ce que j'ai pas aimé, enfin, mis à part qu'évidemment le vrai Pathfinder total, il est beaucoup trop, c'est trop pour moi, hein, c'est trop de règles, c'est trop lourd, Ça, je jouerai pas au Pathfinder de Total. Le vrai Pathfinder. Mais le Pathfinder qui est dans la boîte d'initiation, ouais, ça roule. Ce que j'ai pas aimé, les illustrations. J'aimais pas les... Autant j'aime bien les illustrations dans la campagne cthulhienne de Pathfinder, autant je trouvais les illustrations dans la boîte d'initiation de Pathfinder pas très belles. Par contre, les illustrations du starter set de Donjons et Dragons, je les aime bien. Et aussi, juste parce qu'il y a beaucoup de débats sur le féminisme dans le jeu de rôle, les femmes dans. Aussi bien dans Donjons et Dragons que dans Pathfinder, elles sont habillées, donc il n'y a pas de femmes dénudées. Elles n'ont pas des armures irréalistes dans le sens où elles ont des armures qui sont des bikinis en fait. Ça, il n'y en a ni dans l'un ni dans l'autre, mais par contre, dans Pathfinder, on a les bonnes vieilles armures irréalistes avec des seins qui sont visibles, quoi, ce qui est complètement débile d'un point de vue fonctionnel, évidemment. Parce que si vous tapez sur une armure qui a des seins, ça ne fait que point diriger la lame de votre épée vers le centre, vers le plexus. Et aucune guerrière ne mettrait une armure qui simule des seins, évidemment. Enfin, c'est complètement débile. Mais évidemment, bon, c'est supposé. Enfin, c'est pour le regard masculin qu'on appelle ça. Par contre, dans D&D, dans la boîte de starter set de Donjons & Dragons, les femmes ne sont pas dessinées comme ça. J'ai encore vérifié avant d'enregistrer. J'ai regardé un certain nombre de dessins de femmes. Il n'y a aucune des femmes qui porte d'armure irréaliste. Elles ont toutes des armures réalistes, c'est-à-dire qui semblent fonctionnelles. Enfin, c'est pas réaliste dans le sens où ce sera des vraies armures, mais il n'y a aucune des armures qui n'est utilisée pour mettre en valeur le corps de la femme. Et je pense qu'on voit qu'ils se disent, s'il y a des joueurs féminins, elles ne vont pas être rebutées par une objectification excessive. Les armures ne mettent pas trop en avant la poitrine des femmes. Donc là, Donjons et Dragons l'emportent aussi, je pense. Ils ont fait un travail un peu pour être plus agréable, enfin voilà, pour prendre en considération les critiques du sexisme dans le jeu, en tout cas. Franchement, de ce côté-là, enfin, je suis encore en train de regarder un peu ce qu'il y a. Je pense que ça devient. Les dessins sont tout à fait de femmes, d'aventurières, sont tout à fait raisonnables dans le starter set, en tout cas de Donjons et Dragons. Dans Pathfinder, c'était pas le cas, quoi. On avait encore le côté un peu heroic fantasy, sexy. Bon. Voilà. Alors, par contre, aussi un autre truc qui m'a pas plu dans la boîte d'initiation Pathfinder, comme je l'ai dit, c'est le scénario. Et la manière dont on enseigne à un nouveau maître de jeu d'écrire une histoire. Bon, il y avait un petit livre dont vous êtes le héros tout début, ça j'ai trouvé super. Ça, il n'y a pas ça dans Donjons et Dragons. C'est toujours chouette d'avoir un petit livre dont vous êtes le héros très court à jouer pour donner une idée. Même pour l'Appel de Cthulhu, cette édition, ils l'ont fait, on l'a joué avec Xavier. Ça explique bien, bon. C'est toujours marrant de voir aussi ce qui est montré, évidemment, pour Pathfinder, c'était de nouveau un foutu donjon. Alors que dans l'Appel de Cthulhu, c'était aller dans un village, il y a des cultistes, enfin, une circonstance. Bon. Là aussi, on est devant le donjon, on rentre dans le donjon. Ben, enfin, je me disais, ok, c'est le livre dont vous êtes le héros qui introduit les règles, pourquoi pas. Mais le scénario d'initiation, c'est rebolote la même chose. Donc, on a un scénario, c'est un donjon. Mais alors, la façon dont ça commence, j'avais ça dans ma première boîte que j'ai ouverte de jeu de rôle, c'est vous êtes devant le donjon. Et ça, c'est vraiment le truc qui me saoule. Même si on veut faire de la fantasy super classique, attaqué par vous êtes devant le donjon, et évidemment, devant le donjon, il y a des gardes. Dans la vieille, toute vieille boîte de Donjons et Dragons que j'ai eue quand j'avais 12 ans, c'était des kobolds. Ici, c'est des gobs. Je vais faire spoiler, mais de toute façon, ce scénario-là, vous ne le jouez pas, il est vraiment foireux. Et donc, c'est parce qu'ils veulent qu'on commence par une scène de combat. Et ça, c'est vraiment déplorable, je trouve. Même s'ils voulaient faire. Dans Donjons et Dragons, ils ont une approche beaucoup plus raisonnable de ça, mais. Mais même si on veut faire ce genre d'intro classique, pourquoi pas avoir fait l'intro super méga classique de vous êtes dans une auberge, vous interagissez avec un PNJ, et puis seulement vous allez au donjon. Mais déjà, ça explique aux joueurs qu'il y a du roleplay à faire et que vous devez interagir avec des PNJ, c'est des choses sur lesquelles vous ne devez pas uniquement taper. Mais voilà. Et alors, bon, ça c'est toujours dans le donjon d'intro de Pathfinder, de la boîte d'initiation. Donc vous imaginez, vous avez 14 ans, 13 ans, 12 ans. Enfin, sur la boîte Pathfinder, ils mettent 14. Sur la boîte de donjon, ils mettent 12, je pense. Vous ouvrez ça, c'est ça qu'on vous explique qu'il faut jouer, quoi. On vous met un donjon, donc voilà, il y a des gobes. Et puis après, vous allez dans une autre salle, il y a une fontaine dédiée à une déesse, quoi. Ça, c'est le genre de truc qui me tape sur les nerfs à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette fontaine? Je veux dire, il n'y a aucune cohérence interne. Pourquoi des gobes iraient s'installer à côté d'une fontaine dédiée à une déesse du bien ou un truc? Ça n'a pas de sens. Et donc, en plus, c'est une fontaine qui a de l'eau magique. Si on la boit, on se chope des bonus ou des malus. Donc, les gobes, chaque fois qu'ils vont boire, ils se chopent des bonus ou des malus. Ou alors, ils boivent pas à la fontaine, et comment est-ce qu'ils trouvent de l'eau alors? Vous voyez, il n'y a aucune cohérence dans l'écologie du donjon. Pourquoi les monstres sont là? C'est le gros problème de Donjons et Dragons, c'est quand on n'insiste pas sur l'écologie. Et tout le donjon qu'il propose là au meneur de jeu, il est là pour expliquer des points de règle, c'est-à-dire il y a des monstres, il y a des objets magiques, il y a des pièges, il y a un dragon à la fin, mais à aucun moment on explique, oui, mais il faut qu'il y ait une raison pour laquelle les créatures sont là. Il faut que ça ait du sens et que les créatures puissent interagir. Et ça, je comprends pas. Je comprends pas surtout parce que les scénarios de Pathfinder que j'ai lus là pour Strange Eons, la campagne de Cthulhu, ils ont fait exactement l'inverse. Ça commence par un donjon aussi, mais le donjon de départ, il est hyper cohérent. Toutes les créatures qui sont là ont une raison pour être là. Même par la suite, hein, parce que j'ai acheté le deuxième module. Le deuxième module, on est dans une ville, mais il y a quand même des donjons. Enfin, des phases de donjons, mais même là, je veux dire, c'est des bâtiments, ils sont cohérents, on sait pourquoi ils sont là, on sait pourquoi les créatures qui sont là. C'est pas, je vais taper une fontaine au milieu de nulle part, sans raison. Oh, vous marchez dans un couloir, il y a un dragon. Enfin, je veux dire, un vampire. Et Ravenloft, enfin, Curse of Strahd, c'est la même chose. Ils ont écrit c'est un sandbox, en fait, celui-là, donc une bac à sable, mais elle est totalement cohérente. Les monstres, même les rencontres aléatoires, ont des raisons pour lesquelles ils sont là. Il y a une écologie interne. Mais là, le donjon qu'ils expliquent, qu'ils me présentent dans Pathfinder, il n'y a absolument aucune écologie. Et on voit que, alors, ça donne un standard aux meneurs de jeu débutants, qu'en fait, il faut mettre des challenges intéressants, mais que ça n'a, il n'y a pas de raison, enfin, qui, la raison, oui. En plus, bon, pourquoi est-ce qu'on va au donjon? Bah, parce qu'il y a un dragon dans le donjon et qu'il faut tuer le dragon. Je veux dire, il n'y a pas d'histoire, on ne transmet pas aux jeunes meneurs du jeu débutants que l'histoire a de l'importance, que c'est juste un labyrinthe où on tue des trucs. Oui, et puis bien sûr, les gobs ils se pointent et on tape juste dessus, mais il n'y a pas d'intérêt. Enfin bon, faites un génocide sur les gobs. Je sais pas. Enfin, non, ça va pas quoi. Et d'ailleurs, après, quand ils enseignent comment les meneurs débutants doivent. Il y a une section écrivez vos propres scénarios pour Pathfinder. Et dans la section écrivez votre propre scénario, là, c'est vraiment se taper la tête sur les murs. Hein. Première section, dessinez le plan de votre donjon. Mais franchement, allez. Non, première section, c'est trouver une idée de scénario intéressante pour laquelle vos joueurs devraient aller dans un donjon. Mais pas de dessiner le plan du donjon. Pour eux, c'est le truc le plus important, le plan du donjon. Et c'est même pas qu'il faut une écologie intéressante dans le donjon, c'est que il faut pas que les pièces se ressemblent trop, quoi. Il faut avoir des pièces qui sont carrées, d'autres circulaires. Mais c'est pas. Donc ils pourraient mettre un. Moi, je dirais, si vous voulez faire du Donjon et Dragon intéressant, il faut que les joueurs aient une raison valable d'aller dans un donjon. Si y a un foutu dragon dans un donjon proche, on n'envoie pas quatre personnes, on envoie une armée pour se défaire du donjon, mais enfin, il faut justifier. Parce qu'ils mettent aussi des plot seeds, hein, des petits détails. Et là, y a des tribus de gobes dans les environs, et on veut qu'on aille éliminer les gobes, quoi. C'est vraiment le scénario, faites un génocide sur les gobelins, quoi. Oui, mais attendez, s'il y a une tribu de gobelins agressive au nord de votre ville. Et que dans votre ville, il y a des gardes, des guerriers qui protègent la ville. Vous envoyez pas quatre aventuriers, vous envoyez une mini-armée vous défaire du campement gobe. Alors que, enfin, c'est pas du tout adressé ce genre de truc, quoi. Est-ce que tuer des gobes à la hache. On envoie quatre personnes dans un camp de gobelins et on leur demande de tuer les gobelins, c'est vraiment. Enfin, oui, en plus, il y a les problèmes éthiques qui vont avec ça. C'est pas le genre de scénario qu'on devrait encourager les jeunes meneurs de jeu à faire. Or, c'est tout à fait ce qu'ils font. Et un autre détail qui m'a sidéré dans la boîte de Pathfinder, c'était role-playing. Donc, il y avait une section role-playing, donc interpréter son personnage en français. Et ils mettent ça. Parfois, vous pouvez rencontrer dans votre donjon des gens avec qui vous avez parlé. Waouh, ça, c'est vraiment mind-blowing, quoi. Donc, il différencie deux interactions. Le gob de base, vous prenez votre hache de guerre, vous lui enfoncez sur la gueule. Et puis parfois, vous allez rencontrer un personnage, vous allez dire bonjour. Et alors là, j'étais aussi sidéré, parce que enfin, la façon dont ça a amené, c'est ridicule. Enfin, non, bien sûr qu'il y a des personnages à qui vous avez parlé, mais. Pourquoi ça appelait ça role-playing? Déjà, ça implicitement, ça veut dire qu'on ne fait pas de role-playing quand on fait les combats, par exemple. Ça veut dire qu'on quand on fait les combats, on est tactique, mais on ne fait pas du role-play. Par exemple, on n'interprète pas son. Son paladin, enfin dans la boîte de base de Pathfinder, il n'y a pas de paladin, mais sa prêtresse, on joue une prêtresse, on va pas jouer, on va pas lui faire crier une prière à sa déesse. Non, on fait pas de roleplay quand on fait des combats, quand on fait du combat, on lance des dés, on dépasse les seuils de réussite, on fait pas de roleplay. Par contre, là, quand on doit parler à quelqu'un, là, il faut faire du roleplay. Voilà, c'était un peu mes critiques. pour Pathfinder, j'étais déçu. Je trouve que donc D&D dépasse vraiment complètement ça, hein, parce que le modèle de scénario qui est présenté dans D&D là, élimine complètement ça. Hein. On voit que le seul critère qu'on pourrait leur faire, c'est qu'on commence par un petit donjon et puis on va en ville et on interagit avec des PNJ. On pourrait leur dire, bah, il ne faut pas commencer le scénario avec un donjon, il faut directement aller en ville, on doit faire de l'enquête par exemple. Mais s'ils avaient fait ça, je dis oui, mais attendez, on est quand même dans du Donjons et Dragons. Commencer par un petit donjon pour expliquer le principe d'un donjon, et puis aller faire. Et puis il n'y a pas vraiment de phase d'enquête, hein, c'est quand même des quêtes qu'on réalise, et les quêtes c'est principalement aller taper sur des choses, mais il y a aussi des quêtes où on doit aller parler à des choses. Hein. Enfin, même dans le scénario là, de D&D, il y a des monstres, je ne vais pas les mentionner, mais qui sont trop balèzes, donc si les joueurs essayent l'attaque frontale, ils vont se faire défoncer. Ils doivent aller leur parler. Hein. Enfin, c'est un peu comme. Ça a pas le niveau que de One Ring là, où on est face à un loup-garou et la meilleure stratégie c'est de s'enfuir, ou vous êtes face à Smaug, un dragon comme Bilbo, il vaut mieux lui parler. Parce que dans Donjons et Dragons, il y a toujours l'espoir qu'un jour vous montrez le niveau et vous serez assez fort pour pouvoir vous le faire, tandis que dans Le Seigneur des Anneaux, vous serez jamais assez fort pour vous faire Smaug finalement. Hein. Il vous faudra de la chance, ou si c'est ça que vous appelez de la chance, ou ce que vous avez. Donc, enfin, je veux dire, une intervention divine en fait dans l'esprit de Tolkien. Mais franchement, ouais, le scénario de Donjons et Dragons, ça évite ça, parce qu'on est dans une ville, il y a plein de PNJ super intéressants, voilà, il y a vraiment de la saveur derrière la ville qui est décrite, et ça apprend en meneur de jeu, voilà, il faut aller interagir avec les PNJ, parler avec eux, ils ont des informations, et donc ça donne les bonnes ressources. Mais par contre, évidemment, Pathfinder, les règles simplifiées sont chouettes, mais le processus pédagogique, il est vraiment pour faire du... pour enseigner aux joueurs débutants et aux meneurs débutants à faire une approche donjon gros oui. Là, je veux pas être péjoratif, parce que en fait je suis pas contre les donjons, c'est ce que je suis en train de dire. Moi je trouve que si un donjon bien fait c'est gay, quoi. Mais c'est comme les chasseurs, il y a des bons donjons et des mauvais donjons. Et donc le mauvais donjon, c'est celui où t'as pas de raison de valable d'y aller, il y a pas d'histoire, et le donjon n'est pas écologique, il n'est pas logique derrière. On a les raisons pour la présence des monstres n'ont pas de sens. Voilà, donc ouais, j'étais un peu déçu pour ça. Maintenant, enfin voilà, il y a du bon dans les deux boîtes. Hein. Par contre, aussi bien la campagne Strange Eons, donc les étranges époques, pour Pathfinder, qui se base sur le mythe. J'ai les deux modules, franchement, j'ai été bluffé. Je trouve que c'est vraiment du bon Donjons et Dragons, quoi. Je veux dire, c'est solide, les phases de donjons ont du sens, et les monstres sont placés de manière écologique, on sait pourquoi ils sont là, il y a des PNJ intéressants, il y a un véritable scénario, il y a un vrai mystère à découvrir. C'est vraiment con qu'on retrouve pas ça dans la boîte pour beginners, quoi. C'est comme si, c'est vraiment dire, on va présenter ça à des gosses de 12 ans et ça leur posera pas de problème. Mais c'est pas parce qu'on s'adresse à des gosses, enfin des adolescents, mais de toute façon j'ai été cet adolescent là, qu'on doit leur fournir de la merde. c'est pas parce que c'est pour des adolescents que le scénario doit pas tenir la route, essentiellement parce qu'on est en train de former les rôlistes de plus tard. Pourquoi ne leur pas, surtout si on sait le faire, pourquoi ne pas leur fournir un bon scénario dès le départ, enfin. Sinon pour Pathfinder aussi, la mise en page elle faisait mal aux yeux. La boîte de base de Pathfinder, elle fait mal aux yeux, je trouve. Il y a des stat blocs partout, on s'en sort pas. Heureusement que je connais déjà les règles de Donjons et Dragons. Et moi, quand je lis, évidemment, c'est juste, je dois capter les différences par rapport aux versions de Donjons et Dragons que je connais. Mais si j'avais vraiment 14 ans et que j'avais jamais fait de Donjons et Dragons et que j'avais... Ça part dans tous les sens comme ça. Par contre, franchement, la boîte starter set de Donjons et Dragons 5e édition, elle est plus belle. Et alors, là, le scénario que j'envisage de jouer, là, la malédiction de Strahd, là, c'est une sandbox, donc c'est encore le niveau supérieur. Les joueurs vont dans la région de Ravenloft et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a la menace qui est évidemment le comte de Strahd, hein, qui est l'équivalent de Dracula pour ceux qui ne savent pas, qui contrôle la région. Mais c'est vraiment une vaste sandbox avec... les joueurs ont une liberté gigantesque de faire ce qu'ils veulent dans l'ordre qu'ils veulent. Et évidemment, il y a des événements aussi qui sont prévus. C'est pas vraiment une timeline, mais il y a des événements qui sont activés en fonction de ce qu'ils font. Entre autres, parce qu'évidemment, si Strat fait pas attention à des personnages niveau 1, bah, à partir du moment où ils sont niveau 5, ils commencent à être proactifs. Ils se disent merde, il y a des personnages qui commencent à monter de niveau dans ma région, ils pourraient devenir une menace. Donc, c'est un méchant intelligent qui réagit à leurs actions. Donc, ça, c'est vraiment super. Un autre élément dans Curse of Strat, dans la malédiction de Strat, non seulement c'est complètement sandbox, mais il y a un fameux Taroka deck, donc un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes de tarot, mais ils appellent ça Taroka. Et il faut. Enfin, ça, je suis à spoiler, mais. Donc si vous. Il y a des gitans dans le jeu, et si vous allez chez les gitans, il y a un moment où vous allez avoir quelqu'un qui va vous lire les cartes de tarot. Ça, c'est classique, hein. C'est un faux spoiler dans le sens où normalement la plupart des gens le savent, parce que ça, c'était déjà conceptuellement dans le premier scénario Radvanlove qui date de 82-84, donc c'est un spoiler pour quelque chose qui date d'il y a 25 berges, ou plus que ça, 30 ans. On tire les cartes, et alors ça prédit la position du vampire dans le combat final, où il se trouve dans son château, etc. Ici, ils ont encore porté ça plus loin, parce que les cartes de tarot prédisent la position d'objets magiques dont les joueurs auront besoin, et d'alliés qui vont... Il y a des alliés qui pourraient être une aide précieuse contre le vampire, mais seul celui qui est prédit par les cartes acceptera réellement d'aider les PG. Donc en plus, c'est une sandbox avec une sandbox écologique, tout s'explique. Bon, évidemment, tout remonte à Strat, évidemment. Non seulement c'est une sandbox écologique, mais en plus, il y a cet élément aléatoire qui apparaît au niveau des cartes, quoi. Voilà, bon. C'était un peu ce que je voulais vous raconter sur Donjons et Dragons et Pathfinder. J'espère que ça vous aura intéressé. Il y avait un peu comme ça aussi, vous avez des idées de choses qu'on pourrait être amené à jouer dans le futur. Strangians pour Pathfinder dans un futur relativement proche. Et Curse of Strahd, la malédiction de Strahd dans un futur très lointain. Vous avez soif de science, philosophie et pensée critique? Vous êtes un fan de zététique et de scepticisme scientifique? Alors retrouvez-nous à Bruxelles Scepticopub. Chaque mois, l'équipe de Brussels Skeptics in the Pub organise une conférence dans un pub de la capitale belge. Pour plus d'informations sur nos événements à venir, visitez le site brussels.skepticsinthepub.org. C'est brussels.skepticsinthepub.org.
Doesn't look like you. Being brave's not problematic when your ace is 20. dragons to slay.